Merci beaucoup, Sylvère. Merci, Mme Carrier. Merci à la BPI et à toute l'équipe de m'avoir invité aujourd'hui. C'est vraiment un très grand honneur d'être ici pour vous parler de ces idées de bibliothèque participative, bibliothèque collaborative, laboratoire numérique. Il y a énormément d'idées qui circulent dans notre profession. Vous en êtes tous pleinement conscients, sinon vous ne seriez pas là en aussi grand nombre. Pour ma part, ça fait 5 ans seulement que je suis bibliothécaire, donc diplômé de l'EPSI à Montréal. Et j'ai découvert, ce faisant, un milieu extrêmement passionnant, plein d'innovations, souvent plein d'angoisse et d'anxiété par rapport à l'avenir. Je crois que c'est tout à fait normal. On vit à une époque en pleine transformation. Tous les secteurs d'activité sont chamboulés par l'arrivée du numérique et tout ce que ça implique. Mais ça fait déjà 20 ans à peu près que le web est aussi présent dans nos sociétés. Ça fait déjà 10 ans qu'on parle de web social, web 2.0. Alors, je crois qu'on est arrivé à un point où on ne doit plus nécessairement voir les transformations de la société et de nos institutions uniquement sous l'angle de l'arrivée des technologies et du numérique en tant que tel. Je crois qu'on a affaire à un changement de culture. Et on doit donc s'ajuster à un changement de culture qui n'est pas, selon moi, une simple transition vers un nouvel état. Je crois qu'on est dans un processus d'accélération constant vers des usages qui vont nécessairement toujours varier dans le temps. Alors aujourd'hui, je vais faire le tour. On m'a demandé de faire une présentation, une mise en contexte de certains nouveaux usages qu'on observe dans les villes, dans les villages également, en région rurale et urbaine, liées à ces pratiques de collaboration et de participation. On m'a aussi demandé de parler de toute la nouvelle typologie d'espaces qu'on voit émerger, des tiers-lieux, des espaces de Fab Lab, coworking. On en a tous entendu beaucoup parler. Je vais faire un portrait pour mettre en contexte également ces différents types d'espaces-là. Et bien sûr, ramener la discussion vers la question des bibliothèques, que ce soit des bibliothèques en milieu territorial ou en milieu universitaire ou dans tout autre milieu. Clairement, nos institutions doivent s'adapter à ce monde en transformation-là. Donc, j'espère pouvoir, ne serait-ce que vous communiquer quelques inspirations qui, chez moi, nous inspirent énormément. Donc, je vais devoir m'asseoir pour des raisons de hauteur d'ordinateur. Alors, tout au long de la présentation, je vais osciller entre deux modes, deux angles d'analyse qui me semblent intéressants, c'est-à-dire l'arrivée de toute la culture du faire ou du maker dans la société et en bibliothèque. Et ensuite, l'arrivée de, selon moi, un autre grand type d'usage et d'espace qui sont moins centrés autour de l'acte de faire, mais plutôt autour de la conversation et de l'échange d'idées. Donc, quand vous allez voir ce petit icône, on est dans le faire, et quand vous verrez la petite ampoule, on sera dans les espaces d'idées. Vous allez voir tout au long. Alors, pour commencer, je vais nous ramener au 19e siècle. Certains d'entre vous connaissaient sans doute l'existence des Mechanics Institute, qui étaient des institutions qui ont émergé en Écosse autour de 1820, suite à l'initiative principalement d'industriels qui considéraient qu'il y avait un manque d'éducation technique et scientifique de la classe ouvrière et des professionnels. Donc, il y a eu un premier Mechanics Institute qui a été créé, qui était un peu un espace d'enseignement et d'initiation à différentes techniques et à la science. Donc, je vois dans ces instituts-là un peu l'ancêtre de ce dont on parle maintenant autour des Fab Labs, là, l'appropriation de la technique, de la technologie. À l'époque, on était en révolution industrielle, il y avait énormément à apprendre et la technologie évoluait rapidement également. Les Mechanics Institute ont foisonné très rapidement au 19e siècle, un peu partout dans le Commonwealth principalement. Donc, en Angleterre, en Australie, mais et aussi au Canada. Il y en avait des milliers au 19e siècle, ce qui est quand même très impressionnant. Et c'était un peu, comme je disais, des laboratoires. Il y avait également peu à peu d'autres services qui se greffaient à ces lieux-là, des bibliothèques, des services de prêt de livres, des petits musées pour divertir aussi les gens autour de nouvelles technologies. Et c'était aussi des lieux de rassemblement pour les travailleurs. Donc, peu à peu, ces instituts-là sont devenus des bibliothèques publiques. Il y en a certaines qui sont demeurées dans leur vocation originale, qui n'ont pas été rendues sous l'autorité des municipalités, mais qui sont restées autonomes. En particulier, le premier Mechanics Institute du Canada, qui est basé à Montréal, est encore ouvert et a toujours son indépendance et sa vocation d'origine. Donc, vous irez la visiter quand vous viendrez à Montréal la prochaine fois, qui est la Bibliothèque et Centre informatique Atwater, qui est l'équivalent d'une association en France. Maintenant, autre petite introduction. Je ne sais pas si vous saviez, mais les cafés parisiens sont cités partout dans le monde comme étant l'archétype du lieu de rassemblement social dans les villes. Des lieux où les gens vont parler avec le voisinage, prendre un café, discuter. Donc, des lieux vraiment sociaux. Et j'ai bien sûr eu l'occasion de l'expérimenter moi-même. Donc, vous êtes sans doute pour la plupart familier avec le travail de Ray Oldenburg, qui était un sociologue qui a vraiment étudié le concept de troisième lieu dans son livre « The Great Good Place ». Ray Oldenburg fait le constat que dans la plupart des sociétés qui ont eu un riche héritage culturel, qui étaient des villes et des cités vibrantes et dynamiques, il y avait toujours ces lieux de rencontre et d'échange qui étaient en fait des lieux très informels où le voisinage pouvait se rencontrer et principalement échanger dans un contexte très, très léger. Et ces lieux-là, peuvent avoir l'air de rien, mais sont des composantes extrêmement importantes de nos villes et de nos communautés. C'est ces lieux-là qui contribuent à créer une cohésion sociale dont on parle souvent. Donc, selon Oldenburg, dans une vie équilibrée, disons, il y a trois grands lieux qui composent notre existence, notre quotidien. Les espaces domestiques, les espaces liés au travail et les espaces liés à la sociabilisation. Et pour lui, ces trois types d'espaces-là doivent être relativement indépendants les uns des autres, c'est-à-dire que les relations humaines qu'on va développer dans chacun de ces piliers-là de notre existence vont être des relations assez différentes et vont se tenir dans des lieux assez différents. Et pour Oldenburg, il y a deux composantes assez essentielles pour un troisième lieu. D'une part, que le lieu soit un terrain neutre, donc à l'abri de l'intimité, disons, qu'on peut avoir dans nos maisons respectives et également à l'abri de toute la dynamique liée professionnelle que l'on voit dans nos lieux de travail. Donc, c'est un terrain neutre entre ces deux mondes et c'est donc un terrain qui permet d'avoir des échanges informels et de véritablement laisser de côté nos réflexes liés, disons, à des structures de pouvoir hiérarchiques ou à d'autres types d'interactions plus complexes qu'on peut avoir au travail ou à la maison. Donc, il y a un peu un paradoxe, c'est-à-dire que pour avoir une vie sociale riche avec des amis, avec le voisinage, avec sa communauté, il faut prendre un certain recul par rapport à nos lieux les plus intimes, comme la maison. Et donc, en créant ce type de lieu-là, on rend possible une interaction qui est centrale au troisième lieu. Et cette interaction-là, c'est vraiment lié à l'acte de la conversation. Quand vous allez dans un café avec des amis ou avec des connaissances, ou quand vous allez au pub, votre but principal n'est pas de boire un verre, mais bien de discuter avec des gens, de sociabiliser. Et le verre de bière ou le café, ce sont des prétextes à la sociabilisation. Alors, vous êtes sans doute aussi familier avec le mémoire de notre collègue Mathilde, qui a vraiment creusé cette question-là sur les troisièmes lieux appliqués dans le monde des bibliothèques. Et elle m'a demandé de vous dire que je ne suis pas mandaté par elle pour vous parler des bibliothèques troisième lieu. C'est réellement, je crois, une source d'inspiration et même une théorie extrêmement pertinente pour toutes les discussions qu'on a aujourd'hui. On cite généralement les cafés, les pubs, des fois les places publiques, les parcs, comme des bons troisième lieux. Mais selon moi, tous ces lieux-là comportent de grands avantages, mais aussi certains inconvénients. D'une part, ce sont généralement des lieux privés où il faut consommer. Donc, on peut pas aller dans un bar et rien consommer, rester là 6 heures à juste parler avec des collègues. Donc, il y a cette fonction commerciale-là qui peut souvent être un frein à la réelle inclusivité de toutes les populations dans ces lieux-là. Un autre obstacle, bien sûr, c'est la taille relativement restreinte de ces lieux-là qui ne sont pas nécessairement conçus pour vraiment, vraiment bien accueillir des pratiques d'échange, de partage, de connaissances, surtout dès que les groupes dépassent 3-4 personnes et que la durée dépasse une ou deux heures. Donc, une journée comme ici, on ne pourrait pas avoir ça dans un pub, bien sûr. Même en plus petits groupes, si on était même juste une quinzaine et qu'on voulait discuter d'un enjeu, il y a très peu de cafés ou de lieux de ce type qui pourraient vraiment accueillir des activités de ce genre. Par contre, les cafés, les pubs ont vraiment des avantages aussi par rapport à des lieux plus institutionnels comme les bibliothèques. Et justement, un de leurs principaux avantages, c'est que ce ne sont pas des lieux institutionnels. C'est-à-dire que l'ambiance est vraiment travaillée pour rien d'autre que créer un contexte chaleureux et agréable. Donc, il n'y a pas d'obligation d'interagir avec des services spécifiques ou d'avoir un usage très déterminé. Donc, il y a quand même des limites au type d'usage que peuvent accueillir les troisièmes lieux de type café ou bar. Et je crois que les bibliothèques ont vraiment une très grande opportunité pour se positionner comme un lieu d'accueil de ce type d'usage-là, dont je vais faire mention plus tard. Et en particulier, une des grandes forces, c'est la mission culturelle et éducative des bibliothèques, où on a réellement une mission qui est très enlignée autour de cette dynamique de conversation et de cohésion sociale. Contrairement à un café dont la mission, en réalité, c'est une mission commerciale plus qu'une mission culturelle ou éducative. Puis bien sûr, il y a plein d'exceptions. Il y a des cafés culturels, des cafés citoyens. Et justement, on va en parler un peu plus loin. Donc, je vais faire un survol assez rapide des différents usages qu'on observe pour me concentrer davantage sur, plus tard, les nouveaux types d'espaces qu'on observe également. Et les premiers grands types d'usages qu'on voit, c'est lié à toute cette culture du « maker », cette culture du « faire » ou de l'appropriation de notre univers matériel, disons. Il n'y a rien de nécessairement nouveau là-dedans depuis toujours, là, les gens bricolent, ont des ateliers à la maison, font des projets avec leurs enfants. Par contre, en parallèle, depuis 10-15 ans, on a une culture que je pourrais très facilement lier à l'arrivée du numérique, une culture de partage et de travail en collectivité, en communauté qui s'installe peu à peu. Et cette culture numérique s'est très rapidement inscrite dans l'univers physique pour favoriser non pas le « do it yourself », mais le « do it ourselves », le faire ensemble. Des communautés se sont rassemblées et dans les 10 dernières années, on a vu une explosion de ce type de pratique-là du « maker ». J'étais à Paris il y a une semaine, il y avait le Maker Faire de Paris, qui est juste un des multiples Maker Faire qu'il y a maintenant partout dans le monde, des énormes foires avec des centaines d'exposants et de kiosques, qui sont généralement des petites associations, des groupes, mais aussi des entreprises, qui partagent cette culture du Maker. Donc, c'est vraiment très, très impressionnant à quel point ce mouvement-là a pris de l'envol. On observe la grande utopie derrière la culture du maker, c'est de s'affranchir, disons, de l'univers industriel, commercial, et de prendre possession des outils de production du monde matériel ensemble, de façon vraiment ouverte et participative. Ici, on peut voir que je crois que le prochain grand pas pour les makers, c'est de s'intéresser à notamment comment est-ce qu'on peut interagir avec l'univers végétal et même programmer des végétaux. Donc, c'est assez intéressant jusqu'où ça peut aller avec généralement très peu de moyens. C'est souvent des hobbies, des personnes qui vont se réunir le week-end pour travailler sur ce type de projet-là. Moi, quand j'étais petit, je jouais au Lego et je vois que ça a pris encore plus d'ampleur dans la culture, ce type de blocs de construction qui vont souvent très loin. Maintenant, il y a des camps de Lego les familles ont à cœur d'initier leurs enfants très tôt à cette appropriation-là du matériel. Si on parle d'usage, mais je pense qu'on peut voir aussi une autre manifestation de cette culture numérique-là qui veut aussi transcender, disons, les structures classiques et même aller jusque dans le hacking du milieu institutionnel. Donc là, on voit le Muséomix, qui est un projet qui est né en France et qui est maintenant dans plusieurs pays, dont au Québec depuis 2 ans, et qui est un grand rassemblement visant à hacker le musée. Donc, il y a une centaine de praticiens de toutes sortes, des programmeurs, des designers, des personnes en communication qui vont former des petites équipes pour hacker les collections muséales et faire des dispositifs souvent très technologiques autour de ces collections-là. Et bien sûr, il y a eu aussi quelques bibliomix qui ont été créés depuis quelques années, dont à Brest, et je crois qu'il y en a eu un à Paris récemment. Donc, bien sûr, on parle souvent de numérique. Les plateformes numériques, je crois, sont des grands catalyseurs et des grands outils d'organisation pour les communautés. Qui souhaitent travailler ensemble ensuite dans l'univers physique. Donc, les exemples qu'on vient de voir, c'est des usages qu'on observe dans la ville, dans des espaces physiques. Mais derrière, il y a généralement des communautés virtuelles qui vont s'organiser. Et il y a quelques plateformes qui sont spécifiquement destinées à aider à la rencontre entre des citoyens autour de la connaissance ou de la créativité. Ici, on a une plateforme qui s'appelle Skillshare, qui est un réseau d'échange de cours pour apprendre à développer des activités créatives dans l'espace physique. On a des plateformes do-it-yourself qui sont très gamifiées pour initier généralement des publics plus jeunes à toute cette culture du maker. Et on a également, je crois que je l'ai, on a également une plateforme au Québec qui s'appelle E180, qui est un site de rencontre, mais pour des personnes qui souhaitent s'échanger des connaissances. Et si j'utilise ces exemples-là, c'est que tous ces moyens-là, toutes ces activités-là sont des activités vraiment centrées autour de l'échange de connaissances et la créativité, le développement de projets culturels. Et donc, c'est pour, à mon sens, des usages qui sont vraiment étroitement en phase avec les missions de la bibliothèque telle qu'on la conçoit depuis toujours. Maintenant, au niveau des pratiques plus liées à la conversation ou à l'échange d'idées, on a de plus en plus d'événements de ce type-là, qu'on appelle ça des journées de co-design ou des World Café, des design jams. En tout cas, il y a énormément de formules qui existent. Généralement, l'idée, c'est de mettre dans une même pièce des usagers, des experts, différentes parties prenantes pour un enjeu ou un projet, et animer des processus de collaboration afin de faire émerger de l'intelligence et de l'innovation. Je ne sais pas si cette photo-là elle a été prise où, mais on dirait un hall dans un grand espace. Ce n'est pas nécessairement l'endroit le plus inspirant pour ce type de journée innovante. Donc, il y a vraiment une problématique aussi d'espace, là, bien sûr. Autre journée de co-design qu'on avait organisée à Montréal. Encore une fois, ça a été assez dur de trouver un espace. Ici, on faisait un co-design pour un Media Lab à la Grande Bibliothèque à Montréal, mais il n'y avait aucun espace à la Grande Bibliothèque qui était vraiment approprié pour accueillir une journée de co-design. Donc, il y a aussi des échanges, des rencontres citoyennes autour d'enjeux, des formules plus structurées comme le Pecha Kucha, que vous connaissez peut-être, qui est un concept de conférence qui est né en France. Et donc, c'est des conférences en rafale pendant 5 minutes. Souvent, ça se tient dans des bars ou dans des salles, des usines réaménagées, par exemple. Creative Morning, ce qui est un autre type de conférence participative qui se déroule le matin et qui s'intéresse à la créativité. Ça, ce sont des conférences qui ont été créées par des gens, par pure passion, pour le désir d'échanger. Et donc, c'est ça aussi que le numérique permet. Ça permet à tous les citoyens de décider de devenir des organisateurs d'événements publics et de créer des contextes d'échange d'idées et de connaissances. Ici, c'est un exemple à la ville de Vancouver, au Canada, où il y a une initiative qui s'appelle City Studio, qui rassemble plein de citoyens, d'étudiants qui ont à cœur de transformer leur ville en espace plus vivant. Meetup, une plateforme qui sert à rassembler dans des lieux physiques des communautés d'intérêt. La plateforme E180 dont je parlais plus tôt. Donc, on est allé assez vite dans les usages, mais ce que je désire montrer, c'est la démultiplication rapide de toutes les initiatives citoyennes de prise de parole, de création de contextes, d'échange de connaissances. Et tout ça, c'est des actions qui se déroulent vraiment dans des lieux physiques, dans la ville, dans des espaces. Et ça rend d'autant plus... ça révèle d'autant plus à quel point les espaces pour tenir ce type de rencontre-là sont très, très rares. Et bien sûr, les cafés, comme on discutait plus tôt, les troisièmes lieux classiques sont généralement pas du tout adaptés pour accueillir des pratiques de ce genre-là. Je donne toujours l'anecdote d'une anticonférence là, que j'avais participé à organiser il y a quelques années à Montréal sur l'avenir du livre. On a essayé de trouver un local dans les bibliothèques. Il n'y avait rien qui fonctionnait très bien. Et finalement, le seul endroit qu'on a trouvé, c'était un salon funéraire. Alors, je crois qu'on peut faire mieux. Mais c'était un très beau salon funéraire. Alors, il y a une communauté numérique qui s'appelle les tiers-lieux open source qui a été créée il y a déjà peut-être 2 ans, à ma connaissance, et qui vise à rassembler tous ceux qui ont des initiatives ou qui réfléchissent à des initiatives d'espaces participatifs. Et là, la typologie est grande. On va la parcourir rapidement. Mais ce qui lie tous ces tiers-lieux-là, c'est cette idée de créer des espaces où vont pouvoir se rencontrer des communautés. Et bon, ce groupe-là a déjà 2500 membres. C'est un groupe francophone. Je crois que la plupart sont en France. Donc, allons-y avec une certaine typologie de lieux. Donc, la première partie, ça va être tous les lieux où on va pour fabriquer, pour faire des travaux manuels, vraiment. Sans entrer trop dans le détail, je pense qu'on peut rassembler une bonne partie de ces lieux-là sous le nom de makerspace, qui sont des lieux où on fait des choses manuellement. Donc, le premier des types de makerspace, qui est le modèle peut-être le moins facile d'approche pour la plupart des gens, c'est le hackerspace, dont la première, dans l'histoire des hackerspaces, on se réfère généralement à ce makerspace-là qui s'appelle Seabase, qui a été créé en 1995, je crois, à Berlin, par des hackers, des programmeurs, des nerds qui souhaitaient se donner un espace pour travailler ensemble sur des projets, jouer à des jeux vidéo, ainsi de suite. Donc, un hackerspace, c'est vraiment... généralement, c'est des gens qui vont décider de se donner un lieu et créer une structure de membership et ensuite gérer ce lieu-là de façon vraiment autogérée. Et généralement, les hackerspaces vont rassembler des communautés de programmeurs, de fans de science-fiction et de médias alternatifs, aussi des artistes en art médiatique. Beaucoup les communautés du logiciel libre également, les militants du web vont pouvoir se trouver leur communauté-là. Et donc, pour l'histoire de Seabase, il y a un mythe qui dit que c'est dans leur mythologie d'organisation que ce lieu-là était en réalité les débris d'une station spatiale souterraine en dessous de Berlin. Donc, il y a cet humour-là qui transcende ce type de lieu-là, c'est sans prétention. Et c'est souvent des lieux où des événements de culture underground peuvent se tenir également de temps en temps. Et Seabase est encore en fonction, je crois, et c'est un des hauts lieux de ce type. Il y a d'autres types de hackerspace, comme ici, on a l'Electrolab de Nanterre, qui est un lieu dédié à l'électronique. On en a d'autres qui sont davantage liés autour de la robotique ou de d'autres types de lieux. En fait, il y en a beaucoup qui ressemblent à des Fab Labs, mais qui n'ont pas cette vocation d'ouverture-là nécessairement à des non-membres. Par contre, ces lieux-là vont rapidement devenir des lieux d'accueil aussi d'événements publics ou semi-publics autour des cultures émergentes. Donc, on peut voir ça aussi comme des troisièmes lieux d'un certain type pour des communautés. Donc, c'est un niveau plus informel et déstructuré que les Fab Labs. À Paris, il y en a un qui est digne de mention, qui s'appelle La Paillasse, qui est un bio-hackerspace. Donc, je parlais tantôt de toute la prochaine conquête des végétaux. Bien, c'est dans ce type de lieu-là que ça se passe. Donc, les membres vont essayer de trouver des manières de programmer des cellules ou des plantes et créer des projets en lien avec l'univers végétal. Par exemple, ce projet-là qui vise à imprimer de l'encre biologique. Ce qui nous amène au Fab Lab, qui est souvent, j'aime bien cette image-là, c'est souvent on pense à l'imprimante 3D, à toute la fascination qu'elle nous procure. Là. C'est vrai que je crois qu'il y a une grande partie de l'émergence des Fab Labs qui est due à cette curiosité que l'on a développée autour de l'imprimante 3D qui symbolise vraiment bien cet idéal d'appropriation des technologies et d'appropriation en fait de l'univers matériel. Il y a plein de Fab Labs à Paris. Il y en a plusieurs, dont le petit Fab Lab de Paris, que j'aime bien. Il y en a des beaucoup plus grands. Et ce qui distingue un Fab Lab, c'est cette idée de créer un espace vraiment ouvert. C'est-à-dire que ce n'est pas un lieu payant où on doit devenir membre, mais c'est complexe. C'est généralement un lieu vraiment d'initiation et où il y a une réflexion qui est faite autour de l'accueil. Je suis vraiment désolé. Je ne recommencerai plus. Donc, un Fab Lab, c'est un lieu où on va pouvoir imprimer des objets, mais aussi faire toutes sortes de projets avec d'autres types de machines, que ce soit pour des raisons utilitaires ou juste pour s'amuser avec des formes géométriques. Ici, on a quelqu'un qui a imprimé une Aston Martin dans un format 1/3, ce qui est quand même impressionnant. Il y a maintenant des imprimantes 3D pour enfants, des découpeuses laser qui permettent de créer des projets de ce type, comme une chaise en carton. Des nouvelles imprimantes 3D extrêmement performantes, comme celle-ci qui fonctionne un peu comme, si vous avez vu Terminator, le Terminator qui peut surgir d'une flaque de sang. Donc, on est un peu dans ce registre-là avec cette imprimante-là. Et ce qui est bien avec la culture des Fab Labs, c'est que c'est vraiment une culture très participative, très liée à l'échange de connaissances, à la mise en Creative Commons de tous les projets qui ont été développés. Donc, le partage aussi de modèles 3D d'un Fab Lab à l'autre. Et il y a aussi ce grand réseau de cette communauté en fait de pratique à l'échelle internationale qui est assez majeure. Là. Chaque année, il y a une conférence internationale des Fab Labs qui se déroule. Je crois que l'année dernière, c'était à Barcelone. L'année prochaine, à Chicago, je crois. Non, à Boston. Et qui réunit des centaines de Fab Managers et de passionnés de Fab Labs à chaque année. Et je crois qu'il y en a eu, il y a eu un événement de ce type pour la, si je ne me trompe pas, à l'échelle européenne, en France, il y a une semaine. Je crois que c'était en Bretagne. À Toulouse, OK. Merci. Donc, on parle d'échange de connaissances, d'éducation, mais c'est vraiment très, très ancré dans la culture des Fab Labs. Et ce qui en fait aussi, je crois, beaucoup l'attrait pour les bibliothèques. Donc, très rapidement, bon, le concept est né au MIT suite à l'initiative d'un professeur qui a créé un cours qui s'appelle « How to make almost everything ». Et devant le succès retentissant de son cours, je crois qu'il y avait vraiment une centaine d'étudiants qui se sont présentés à sa porte en disant « Je veux faire, ça fait des années que j'attends que ça, je veux apprendre à faire n'importe quoi ». Et donc, le concept est né vers la fin des années 90. Il y a eu tout un discours qui s'est bâti autour des Fab Labs, autour de cette communauté-là. Un discours d'empowerment, de prise de pouvoir par rapport à notre univers. Donc, c'est vraiment un discours qui est très inspirant, très inspirant pour toutes les communautés du libre, toutes les communautés qui s'étaient beaucoup organisées avec le numérique, en fait. En bibliothèque, vous le savez, c'est une piste en pleine effervescence. un des premiers Fab Lab en bibliothèque. Je ne sais pas si c'est vraiment le premier, mais on le cite souvent, c'est dans l'État de New York, à Fayetteville. Là, c'est seulement il y a 4 ans, et je crois qu'il doit y en avoir des je ne sais pas combien, au moins dans des dizaines et de bibliothèques à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, sûrement plus en fait. Et, mais chose certaine, c'est vraiment un sujet très courant. La profession se pose beaucoup de questions par rapport à la place des Fab Labs en bibliothèque. Et comme on disait en intro, l'idée aujourd'hui n'est pas de faire l'apologie des Fab Labs en bibliothèque, mais plutôt de remettre ça en contexte de la transformation des espaces et des usages en bibliothèque. Il y a d'autres types de Fab Labs, comme des cafés, Fab Café. Et je crois qu'encore une fois, à Toulouse, il y a un projet de Fab Café qui s'articule en ce moment. Donc, il y a des centaines de Fab Labs partout dans le monde. Sûrement qu'il y en a encore plus qui ne sont pas répertoriés ici. Parlons maintenant des Media Labs, un autre type de laboratoire en bibliothèque, qui sont davantage centrés autour de la production et l'initiation au multimédia, que ce soit musique, cinéma, montage vidéo. Et souvent, bon, les Media Labs peuvent également comporter d'autres types de technologies comme des technologies qu'on retrouve en Fab Lab. Ce n'est pas des types de lieux complètement exclusifs les uns des autres. Donc ici, en fait, les photos que j'ai mises, c'est le laboratoire U-Media à Chicago, qui est un grand succès, qui ont vraiment réussi à attirer des publics adolescents qui fréquentaient peu les bibliothèques en leur promettant de pouvoir devenir des rappers. Et encore une fois, ce type de lieu-là, c'est vraiment des lieux très participatifs. Le public qui va arriver avec ses propres projets, vont pouvoir prendre en charge les outils qui sont présents, bien sûr avec l'accompagnement de formateurs. Mais souvent, ce qu'on observe, c'est qu'entre eux, les adolescents ou les publics qui fréquentent ces lieux-là vont aussi apprendre aux autres à utiliser certaines technologies. Et il y a vraiment un échange qui peut se dérouler très étroitement. Et ici, la fondatrice de U-Media réfléchit à cette nouvelle littératie-là qui fait partie de notre monde, la littératie aux technologies. Et ce qu'elle souligne, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, ce qu'était la littératie pour nous, pour notre génération, n'est pas du tout la même définition que la génération de nos enfants. Et probablement que leurs enfants, ça va être la même chose. C'est intéressant de voir aussi le processus qui est derrière le U-Media à Chicago. Ils ont développé un modèle d'apprentissage qui s'appelle OMAGO pour Hanging Out, Messing Around, Geeking Out, qui sont trois niveaux d'engagement en fait, qu'on a envers un lieu. Et ça, je trouve que c'est très pertinent pour n'importe quel type d'espace participatif qu'on voudrait créer. C'est important que dans un premier temps, la personne s'y sente bien pour juste « hanging out », c'est-à-dire être là, peut-être s'asseoir, lire, juste, dans le fond, rien faire de particulier à part être présent et apprécier l'ambiance du lieu. Donc, il ne faut pas que les lieux qu'on crée prescrivent des usages obligatoires ou donnent l'impression qu'un usage est attendu de nous. Parce que dès le moment où on ne se sent pas à l'aise de flâner dans un lieu ou de juste chiller dans le lieu, le lieu va devenir automatiquement très, très dur d'accès pour beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est un des dangers, en fait, quand on parle de Fab Lab ou de d'autres types de lieux, c'est de créer des lieux qui vont vraiment attirer uniquement des publics déjà très familiers avec ces technologies-là, avec ces usages-là. Alors que ce qu'on veut, c'est justement d'être un lieu d'initiation. Je peux passer en détail là, les trois niveaux. Messing around, c'est une fois qu'on se sent confortable dans un lieu, bien, peut-être qu'on va commencer à travailler sur une des machines qui est disponible ou éditer un participer comme contributeur à un projet qui serait déjà en place. Donc, c'est un niveau d'engagement supplémentaire qui n'est pas nécessairement très engageant, mais un peu plus. Donc, c'est le bidouilleur, si on pense à du bricolage ou à n'importe quel type d'action un peu moins passive que juste être là. Et geeking out, ça, c'est un niveau d'engagement vraiment supérieur où là, on va arriver avec nos projets, on va être vraiment dans une dynamique très proactive, on va aider les autres dans leurs projets à eux, on va peut-être même proposer une activité. Et bien sûr, à l'opposé du premier avertissement de ne pas créer des lieux où on ne peut pas hanging out, bien, il y a un autre danger qui est de créer des lieux où le geeking out n'est pas si facile, c'est-à-dire que l'initiative d'un des participants n'est pas encouragée ou n'est pas facilement évidente. Et, par exemple, si on pense à l'idée d'organiser un événement dans la bibliothèque, à quel point est-ce que les usagers sont conscients qu'ils peuvent arriver avec un projet d'événement à la bibliothèque et le proposer? Donc, l'idée, c'est de vraiment montrer aussi, si vous avez un projet, parlez-en, ça va nous faire plaisir de l'accueillir. Il y a un autre type de lieu qui, d'après moi, va être en pleine croissance également. Ça s'appelle les ruches d'or. C'est des lieux. Ce qui est intéressant avec ce type de lieu-là, c'est que ce ne sont pas du tout des lieux technologiques. C'est en fait l'anti-technologisme là, par excellence. C'est un lieu de bricolage essentiellement ou de développement des pratiques artistiques amateurs. Un atelier ouvert pour la pratique artistique, mais sans prétention. Là. Donc, ça va être des espaces comme ça avec plein de matériaux, de la peinture, toutes sortes de matériaux de pratique artistique, plastique, bien généralement. Mais il peut aussi y avoir des machines à coudre, des ateliers de bois, par exemple. Et l'idée, si j'en parle, c'est que c'est aussi un modèle qui a été structuré en réseau et qui est en pleine croissance, un peu comme les Fab Labs. Et un peu comme les Fab Labs aussi, c'est des lieux ouverts, gratuits, qui s'inscrivent réellement dans une volonté de créer une cohésion sociale autour de l'art et de ce lieu-là de pratique artistique. Et même de l'aveu très rapide, là, des gens qui sont des porteurs de ruches d'or, ce ne sont pas des... Comme l'art est plus un prétexte à la cohésion sociale qu'autre chose, qu'une finalité en soi. Et encore une fois, c'est pas top-down, il n'y a pas d'éducateur ou de formateur, c'est vraiment les participants qui vont co-gérer les activités et faire circuler la connaissance entre eux. Donc, les ruches d'or sont, en tout cas, sous cette appellation-là, existent beaucoup grâce à l'initiative de cette femme qui est également montréalaise, qui étudie ses studios d'art gratuits depuis plus de 20 ans et qui a initié un réseau des ruches d'or un peu partout dans le monde. Il y en a, évidemment, ce type d'ateliers-là ne sont pas tous sous ce label-là. Il y en a plein un peu partout. On a cet exemple en bibliothèque de Bubbler, dans une bibliothèque américaine, qui est essentiellement ça, un espace créatif, low-fi, très centré sur la pratique artistique amateur. À Montréal, on a... avec mon organisation, un projet en ce moment de création d'un atelier pour la pratique artistique amateur dans une des bibliothèques en construction. Et il y en a, vous voyez, le réseau s'étend peu à peu à travers l'Amérique du Nord et très peu, je pense qu'il y en a un en Italie pour une raison aléatoire. Mais ça pourrait être intéressant d'embarquer dans le mouvement avec vos projets en France. Et j'insiste sur, tu sais, il n'y a pas de raison de davantage créer un Fab Lab qu'une ruche d'or, selon moi. Là. Je pense qu'il faut créer des makerspaces en bibliothèque qui sont ouverts à toutes les pratiques de fabrication, que ce soit numérique ou analogique. Mais ça, on pourra en débattre. Il y a aussi un autre modèle, les bibliothèques d'outils, qui sont souvent des petites entreprises qui décident de partir ça. Des fois, c'est des associations. Et l'idée, c'est de faire un espace pour le prêt d'outils. Mais également, c'est souvent le lieu de rencontre des différentes communautés. OK, j'accélère. Espace de coworking. Donc, c'est des espaces de travail partagés qui rassemblent des communautés de travailleurs. Il y en a plein partout dans le monde. Il y en a des centaines, des milliers, en fait, un peu partout, dans toutes les grandes villes, dans tous les pays. Ici, j'ai trouvé ça bien amusant de lire ce descriptif de la mutinerie à Paris qui essaie d'attirer les publics de bibliothèques insatisfaits par le manque d'échanges en bibliothèque. Parce que bien souvent, bon, les coworking, c'est aussi des lieux d'échange, des lieux de rencontre pour les communautés qui sont impliquées dans ces lieux-là. Des lieux très conviviaux. Il y a quelques exemples en bibliothèque, mais pas énormément d'exemples. Je crois qu'on va en voir plus tard dans la journée. Vous voyez le portrait mondial des coworking. Il y a un concept aussi très intéressant qui est né en Russie et qui s'est étendu dans l'Europe de l'Est et également en France. Les anti-cafés, qui sont un peu comme des coworking, mais beaucoup plus abordables dans une logique de café, où on paye à l'heure plutôt qu'à la consommation. Donc, c'est plein de sources d'inspiration, je crois, qui peuvent nous inspirer quand on pense à des nouveaux types d'espaces. Et, par exemple, un autre projet qu'on a à Montréal de créer un espace de coworking en bibliothèque. Espace 3C, qui est un projet qu'on a initié à Espace-Temps, mon organisation, qui est un espace vraiment conçu dans une bibliothèque universitaire pour favoriser l'échange de connaissances et la collaboration entre les usagers. Donc, c'est cet espace-là. J'ai pas énormément de photos. C'est vraiment un espace de collaboration. C'est un grand espace flexible. Tout le monde peut bouger les meubles, écrire sur les murs, parler fort, organiser des événements. L'idée, c'est vraiment de créer un espace de liberté totale dans la bibliothèque. Plein d'autres exemples. On pourrait nommer la recyclerie à Paris, les accorderies, les repair cafés, les cafés ludiques, les espaces urbains éphémères de rencontres. Il y a beaucoup de lieux. On n'est pas aussi dans l'obligation d'adopter un de ces types-là. Je pense qu'on a aussi le potentiel d'innover en créant des lieux vraiment adaptés aux missions des bibliothèques. Donc, tout ça ne s'inscrit pas du tout en négation de la mission des bibliothèques et de des projets actuels des bibliothèques. Je pense que la bibliothèque a vraiment comme force sa vocation éducative et culturelle, ses ressources professionnelles, ses collections, son ancrage territorial. Et l'idée, c'est de bâtir là-dessus pour ajouter une composante participative et vraiment ne pas manquer l'opportunité de répondre aux besoins de la culture participative de notre époque, qui ne rejoint pas nécessairement tout le monde, mais qui certainement n'est pas en perte de croissance. Ça remonte déjà il y a longtemps, c'est ce moment où on a observé que la culture contemporaine place l'individu au centre comme acteur de changement, comme producteur de contenu. Et donc, je crois que la bibliothèque peut continuer à jouer son rôle en allant encore plus au-delà de son travail de rencontre entre les livres, les documents et les usagers, ce qui n'est pas du tout uniquement ce que la bibliothèque fait, même depuis longtemps, mais je crois qu'il y a quand même un certain changement de paradigme qui peut valoir la peine d'opérer pour placer vraiment l'usager au centre des dynamiques et être que la bibliothèque soit également un agent de rencontre entre les usagers autour de la connaissance et de faire des usagers des acteurs vraiment engagés dans la mission d'accès à la connaissance et à la culture qui est centrale à nos bibliothèques. Donc, je propose cette idée que la bibliothèque soit davantage centrée sur les utilisateurs. Il y a des bibliothèques américaines qui ont des directeurs de l'expérience utilisateur. Il y a toute une autre approche qui peut être employée. Peut-être qu'on a beaucoup à apprendre aussi des startups qui créent des produits, des plateformes pour les et qui font beaucoup de tests utilisateurs ce faisant. Donc, c'est la conclusion de la conclusion. Ça va être très rapide. En fait, on parle d'usages et d'espaces qui sont en cours actuellement dans nos sociétés, mais ces usages-là vont déjà être désuets dès le moment où on va avoir terminé cette journée-là. Il y a beaucoup les usages sont très rapidement en changement. Les nouveaux types d'espaces émergent très rapidement, de plus en plus. Et ce qui ne change pas, par contre, c'est la vocation de la bibliothèque. On l'a vu avec les Mechanics Café, les Mechanics Institute au début. La bibliothèque a toujours été de son époque et doit continuer à l'être, ce qui est de plus en plus difficile parce que notre culture change tellement rapidement. Et je crois que l'enjeu réel qu'on a, c'est non pas de trouver une façon d'adapter les bibliothèques à notre époque actuelle, mais de transformer les bibliothèques en organisations flexibles qui vont réussir à s'adapter continuellement à un futur continuellement changeant. Donc, c'est un défi énorme, mais passionnant. Là-dessus, je vous remercie énormément. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. Ouais. Monsieur Briand.
Bonjour, donc Michel Briand de Brest. C'est très intéressant, hein, tout ce tour un petit peu qui nous amène un peu aux bibliothèques en transition, à un pouvoir d'agir augmenté des citoyens. Moi, j'aurais une question un petit peu. Je pense que tout ça, c'est possible si on se met dans une attitude, tu l'as dit, de coopération et de partage. Et on a besoin de se former à la coopération. À l'école, on nous a appris à cacher notre copie, à travailler tout seul. Et tout ce que tu nous montres là, c'est un univers où d'abord on partage, d'abord on amène les gens à coopérer. Est-ce qu'il n'y a pas justement aussi dans ces réseaux de bibliothèques la nécessité de mettre des formations, non pas aux outils, mais à cette attitude culturelle de coopération et de partage?
Excellent point. Bon, est-ce que vous m'entendez? J'en ai tué un sur six. Là. Merci pour cette intervention. Je suis vraiment d'accord avec vous. On parle bien sûr de la transformation des bibliothèques parce qu'on est bibliothécaire, mais il y aurait beaucoup à dire sur la transformation des écoles et de notre mode d'apprentissage et d'enseignement. Et je crois que les bibliothèques sont, malgré toute la difficulté qu'on peut avoir à les transformer, ça va être plus rapidement des espaces de découverte de ces nouveaux modes de participation-là et d'apprentissage que sans doute les écoles qui vont sans doute suivre tôt ou tard. Mais je crois que les bibliothèques sont un bon véhicule pour former les gens à ces pratiques coopératives-là. Et ça fait clairement partie de l'équation. Et je crois que souvent, des lieux comme les espaces participatifs dont on parle sont aussi sont centrés autour d'actions, que ce soit des projets de fabrication, des projets d'échange de connaissances, des cours. Mais souvent, ces actions-là sont aussi des moyens pour initier les gens à des formes de collaboration plus participatives, que ce soit des échanges de pair à pair dans un Fab Lab ou des ateliers de co-design autour d'un sujet donné. Tout ça, ça contribue également à former les gens à des nouveaux types de coopération et à cette idée-là où chaque citoyen peut être engagé dans sa collectivité.
Hello. I was interested to know about this hanging out, messing out, and geeking out. Do you see an order in it? Which is more important, or are they all equally important in your opinion?
Est-ce que vous pensez que hanging out, messing out et geeking out, est-ce qu'il y a un ordre dans tout cela, ou comment vous décrivez en fait les différentes étapes?
Ben, je serais tenté de dire qu'ils sont tous aussi importants les uns que les autres, mais je crois que le plus important, c'est le premier, hanging out. C'est-à-dire que si on réussit pas à créer des lieux qui vont être des lieux confortables pour juste être là, ce hanging out, les prochaines étapes vont très difficilement arriver et on va encore une fois se retrouver à outiller des personnes souvent très éduquées, très outillées, très familières avec ces pratiques-là. Et un des grands défis, c'est de créer des lieux qui vont être accueillants et aucunement intimidants pour tous, pour tous les citoyens, peu importe l'âge, peu importe le niveau d'éducation. Et si on regarde des cafés, c'est souvent des lieux où les gens vont juste « hanging out ». Et c'est ce qui en fait le succès et le grand défi pour les bibliothèques, c'est de créer des lieux aussi agréables que les cafés.
Oui. Bonjour. C'est moi. Agnès Camus-Viguier, Service études et recherches de la BPI. Donc, merci pour votre exposé passionnant. Je me demandais justement du point de vue des bibliothèques qui sont en tout cas en France des institutions avec toute la lourdeur, le côté positif, parce que c'est accessible à tous, etc. Mais en même temps, il y a une certaine lourdeur dans l'action. Comment faire? Parce que est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ces mouvements collaboratifs qui remettent quelque part en cause l'institution et le travail en institution. Comment articuler ça?
Ben, je n'ai pas la réponse à cette grande question, mais c'est clairement un des grands défis. Et je crois que pour des institutions publiques gérées par les villes ou par les universités, C'est très difficile d'être aussi lean qu'une start-up de 15 personnes dans un bureau quelque part. Mais je crois qu'il y a manière de travailler les structures pour, comme je disais, comme dans le mot de la fin, non pas mettre toutes les énergies sur créer un Fab Lab, par exemple, mais plutôt créer toutes les énergies sur la création la transformation de l'organisation en tant que telle en une organisation souple. Qui va être capable de rapidement s'ajuster à des usages en transformation. Mais bien sûr, là, tous les contextes sont différents et il y a peut-être des choses à dire aussi sur l'autonomie que les bibliothèques ont par rapport à leurs sources de financement. Mais s'il y a d'autres gens qui ont des éléments de réponse, je serais aussi très intéressé de connaître vos avis.
Bonjour, Yveline Fournier, médiathèque de Montgeron dans l'Essonne. Alors pour apporter quelques éléments de réponse à madame, moi je pense que c'est avant tout, vous l'avez souligné dans votre conclusion, merci pour votre exposé qui est superbe, vraiment. Je pense que c'est avant tout une question de volonté, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de lourdeur administrative dans nos établissements. Mais bon, je pense qu'en étant volontaire, en accompagnant nos équipes aussi dans cette évolution, tout peut se faire. Je dirais que il suffit d'avoir un lieu identifié, qu'on peut identifier, et puis voilà, pourquoi pas mettre en place une ruche d'art. Moi, je suis très sensible à cet espace. Et je crois aussi que ce que vous avez très bien décrit dans votre exposé, c'est notre nouvelle mission, qui est la médiation, et pas seulement la médiation numérique, comme on l'a bien compris quand vous évoquiez tous ces nouveaux espaces, mais vraiment la médiation culturelle. Et j'irai encore plus loin que mon collègue de Monsieur de Bretagne, je ne me souviens plus de la ville, parce que je pense qu'on est aussi appelé à accompagner un véritable changement sociétal, si je puis me permettre d'être aussi ambitieuse, en tout cas en ce qui concerne les pratiques culturelles et notamment dans nos bibliothèques. Je pense que vraiment notre rôle aujourd'hui aussi, c'est d'accompagner ce changement, de nous former aussi, parce qu'on a besoin de formation, d'être extrêmement sensibilisés. Mais je pense vraiment qu'avant tout, cette histoire de médiation, c'est avant tout une affaire de volonté. Voilà.
Merci beaucoup, je n'aurais pas pu mieux le formuler. Effectivement, je crois qu'on a vraiment un devoir, non seulement une volonté d'être de notre époque, on a aussi un devoir d'être un lieu d'initiation à la culture de notre époque pour la plupart des gens qui sont souvent très dépassés par cette culture en pleine transformation.
Merci pour votre présentation. Je voulais vous signaler qu'en France, nous avions l'équivalent des Technical Centers au XIXe siècle par le biais du réseau des bibliothèques des Amis de l'Instruction, qui est un petit peu ranimé, dont on connaît mieux l'histoire maintenant, et où l'idée était donc des bibliothèques pour les ouvriers, mais avec un lieu de convivialité, et c'était les conférences qui à l'époque étaient organisées pour la première fois dans ces lieux-là. Et l'idée était bien de sortir de la pure bibliothèque déjà. Donc nous avions un parallèle quelque part sous forme de réseau en France.
Oui, bonjour, Ophélie Ramonaccio, à la bibliothèque de l'Institut français d'Espagne à Madrid. C'était juste pour rebondir en disant qu'il fallait bien sûr, selon moi, prêcher la bonne parole auprès de ses collègues et vraiment mener un long travail de formation pour travailler en collaboration, mais bien sûr aussi auprès des décideurs. Et c'est vrai que il faut, enfin, on disait tout à l'heure, le but en soi, c'est pas de créer un Fab Lab, c'est de changer de philosophie, on va dire. Mais c'est vrai que ça parle pas toujours aux décideurs. Et c'est vrai que pouvoir mettre une étiquette de Fab Lab ou de nouveaux services, on peut l'instrumentaliser aussi pour convaincre des décideurs que ça va pas forcément convaincre l'idée que la bibliothèque doit être de son temps. En plus, c'est un processus de long terme. Et on le sait tous dans les collectivités ou ailleurs. Les décideurs veulent des résultats rapides. Donc voilà, c'était juste une remarque.
Merci.
Yeah. Oui, Françoise Écart, consultante. Parmi tous les espaces dont vous avez parlé, il y en a un qu'on ne voit pas émerger dans les bibliothèques, et vous l'avez dit aussi, hein, alors que ça explose partout ailleurs, c'est les espaces de coworking. Et en fait, moi, ça continue de m'étonner parce que je trouve que les bibliothèques sont très équipées pour ça. Est-ce que vous avez une idée des raisons de ça?
Mais en fait, moi, ce que j'observe, c'est que les bibliothèques sont souvent utilisées comme espace de travail par beaucoup de publics, souvent des étudiants qui vont y trouver un refuge pour faire leurs travaux et étudier. Donc pour moi aussi, je suis un peu étonné de voir que les bibliothèques n'assument pas davantage cette vocation-là de créer des bons espaces de travail. Souvent, c'est des tables qui sont disposées entre des allées de rayonnage, alors qu'il y aurait vraiment une manière d'aménager des espaces encore plus accueillants et conviviaux pour le travail. Et je crois que c'est probablement une tendance qui va de plus en plus se voir, là, des coworking en bibliothèque. Je crois que ça a tout à fait sa place. Et ce qui est intéressant dans un coworking, c'est l'idée de créer vraiment une communauté autour de ces espaces de travail-là. Ce qu'on n'observe pas dans les tables utilisées dans les bibliothèques en ce moment par des étudiants ou d'autres travailleurs.
Alors que quand on ouvre un espace de coworking, il y a plein de bibliothèques universitaires qui fonctionnent dans l'espace de coworking. Là où je travaille, on a augmenté de 40% la fréquentation du lieu. Donc à partir du moment où on a mis des petites salles de travail, donc de différents niveaux, on peut travailler en groupe en se parlant, en chuchotant ou autrement. Et c'est un vrai succès. Et tous les exemples que je connais en France d'espaces universitaires qui deviennent espaces de coworking fonctionnent très très bien. C'est pareil, c'est encore une autre évolution du rôle de la bibliothèque qui accompagne l'étudiant pour apprendre à apprendre.
Oui, tout à fait. L'espace 3C aussi qu'on a développé à Montréal, qui n'est pas vraiment un espace de coworking, on a observé la même chose, c'est-à-dire que de plus en plus de gens fréquentent la bibliothèque pour aller dans cet espace-là, pour travailler en communauté avec leurs amis, travailler sur des projets étudiants. Donc, effectivement, l'exemple du milieu universitaire est très concluant. Je crois que ça a aussi sa place en bibliothèque publique, probablement pour attirer d'autres types de publics.
Bonjour, Sylvie Sesma, Cité des métiers, Univers-Sciences. Et je voulais juste dire que depuis 22 ans, il existe à la bibliothèque d'Univers-Sciences l'espace qu'on appelle Cité des métiers, qui est un lieu collaboratif où se passe sur la réalisation du projet professionnel des personnes, dans lequel nous avons développé depuis 8 ans des espaces qu'on a appelés des clubs, qui sont des lieux où des personnes viennent échanger sur une thématique spécifique pour trouver des solutions d'insertion professionnelle, création d'activités et autres, qui sont tout simplement des échanges entre pairs qui ont lieu régulièrement, notamment, alors je donne quelques exemples, mais dynamique africaine, artistes et travail complémentaire, El Taller, enfin bref, voilà, il y a plein de communautés qui habitent déjà à la Cité des métiers avec cet esprit donc d'échange. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est de s'appuyer sur des expériences qui existent déjà et juste de les écouter et de les faire grandir quand elles existent, quoi. Voilà.
Merci pour cette intervention, pour ces questions. On va passer à la seconde intervention. On va remercier Vincent pour son excellente intervention.
Merci.
Voilà, et on va écouter maintenant Lotta Murinen, qui est planificatrice de projet Urban Workshop à la bibliothèque municipale d'Helsinki. Donc son intervention est en anglais. Ce sera traduit en simultané donc par Mathilde Servet, qui va nous permettre de suivre ça en français. Voilà, on va leur laisser le temps de s'installer. N'oubliez pas le hashtag BPI, 12 mai, BPI. Et donc une précision peut-être qu'il faut toujours donner dans les journées d'études, c'est que les supports des intervenants seront évidemment publiés sur les sites de la BPI et que l'ensemble de la journée sera disponible en podcast audio sur notre web radio. Voilà.